les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Orlane Petit, Fanny Amat et Chloé Bariol, encadrés par Laurent Pfister, nous parlent du jury populaire. Épisode 4, le jury populaire, un acteur du procès pénal. Juger n'est pas chose aisée. C'est le moins que l'on puisse dire, que l'on soit magistrat professionnel, aguerri de pratiques et d'expériences, ou juré. Monsieur, madame, tout le monde, qui durant plusieurs jours ou semaines de procès, devra se mettre dans la peau, les yeux et l'esprit d'un juge. Car sur ces citoyens tirés au sort, repose précisément le sort judiciaire d'une autre personne. Alors, comment juge-t-on en tant que juré et quels sont les défis rencontrés? Pour répondre à cette question, nous aborderons trois axes. L'accommodation au monde judiciaire, le devoir de juger et enfin, le comment bien juger. Lorsque la Révolution française met en place le jury populaire, en vérité, personne n'y était préparé. Cette loi qui se voulait philanthrope et profondément révolutionnaire, brisant les privilèges de l'ancien régime, trouva une difficile acception en pratique. Pour cause, les citoyens étaient tirés au sort selon des listes de scrutins censitaires relativement faibles. En d'autres termes, le seuil d'éligibilité étant peu élevé, la plupart des hommes qui payaient le cens étaient susceptibles d'être appelés à composer le jury populaire. Parmi ceux qui étaient désignés se trouvaient des bourgeois, des nobles déclassés ou encore des petits et moyens paysans, des artisans, qui pour beaucoup à cette époque étaient encore illettrés. Si ces derniers étaient en mesure de comprendre l'affaire judiciaire qui se présentait à eux, certains étaient bien en peine durant le délibéré de lire les pièces du dossier et plus dur encore d'inscrire le mot « oui » ou « non » sur le fameux bulletin secret qui devrait déterminer la culpabilité de l'accusé. Il n'y avait pas de véritable préparation à la fonction de juré populaire. Alors, les magistrats, dans un grand effort de pédagogie, briefaient rapidement les jurés sur le tas et, somme toute, exerçaient une tutelle sur ce jury néophyte et peu acculturé au monde judiciaire. Par un acte inavoué, celui-ci s'en remettait aux directives des magistrats. Plus tard, l'augmentation des seuils d'éligibilité fondés sur le sens avait conduit à une forme d'embourgeoisement du jury populaire, composé d'hommes davantage éduqués et donc autonomes dans leur déclaration de culpabilité. Malgré tout, que l'on soit riche ou pauvre, éduqué ou non, être juré, depuis la Révolution jusqu'à ce jour, est un rôle à part entière à assurer. S'il n'enfile pas la robe couleur cendre, le juré doit rapidement s'acculturer aux us et coutumes du monde judiciaire. Impressionné par l'apparat et le décorum du rituel judiciaire, le juré s'en est-il à peine remis de son premier contact avec le tribunal dans toute son expressivité, qu'il doit sans plus attendre entrer en scène, enfiler son masque d'acteur et jouer son rôle. Un rôle singulier qui, bien que passif, semblable à celui d'un spectateur, sera déterminant à l'issue du procès. À cet égard, le magistrat professionnel, très souvent président de cour d'assises, exerçant le rôle de metteur en scène, doit enseigner aux citoyens profanes, externes à l'enceinte judiciaire, les comportements et attitudes à adopter. Neutralité, sobriété, expressivité contenue, émotion retenue. Tant dans le temps qu'à l'issue des audiences, le jury doit être préservé et se montrer étanche à tout ce qui entraverait son objectivité et son impartialité. Après s'être accommodé au monde judiciaire, le jury populaire doit également faire face à un second défi, celui du devoir de juger. Au XIXe siècle, contribuer à la justice était un privilège pour ceux qui étaient désignés jurés populaires. Et aujourd'hui encore, cette fonction est honorée de bon ou de mal gré par les citoyens qui l'occupent. Pour ceux qui s'y sentent contraints, se trouve le sentiment de malaise, d'indignité dans le fait de juger autrui. Par motif moral ou de conscience, résonne en certains cette maxime « vous ne jugerez pas pour ne pas être vous-même jugé ». Pour d'autres, désintéressés du monde judiciaire, l'obligatoriété d'être juré qui leur est imposée, à peine d'une amende de 3 500 euros, est le reflet du désamour d'une certaine catégorie sociale peu insérés ou se sentant marginalisés de la société. Ce sentiment d'une société injuste inclut nécessairement celui d'un système judiciaire partial et corrompu. D'autres jurés, qui idéalisent le procès pénal au travers des séries nord-américaines, se trouvent parfois déçus, ennuyés, fatigués de la lenteur et de la fastidiosité des audiences. Mais pour certains autres jurés, prenant à cœur la mission qui leur est confiée, du devoir de citoyen qui, au-delà du fait de voter, peut également juger, voit dans le procès pénal l'opportunité d'y être émergé, de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et d'être un acteur de la décision qui sera prise. Entre sentiments de colère ou d'incompréhension, de rationalité ou de dubitation, de grande peur ou de stress, de fascination ou de compassion envers l'accusé, la fonction de juré, intrinsèquement humaine, produit diverses émotions selon la personnalité, le vécu ou la situation socio-professionnelle de ses citoyens. Pour autant, tous, quels qu'ils soient, ont en commun ce devoir de juger, d'absoudre ou de condamner. Mais plus encore, le procès pénal et la condamnation ou l'acquittement auquel ont concouru les jurés est le tensiomètre de la société. Car consciemment ou non, chacun exprime par le crime qu'il doit juger sa vision du bien et du mal, du bon citoyen et du mauvais citoyen. Pour cause, lorsqu'apparaissent et se diffusent les affaires de meurtres en série à la fin du XIXe siècle, les condamnations à la peine de mort jusqu'en 1981 et les condamnations sévères se multipliant au XXe et XXIe siècle traduisent le souci de condamner durement afin de rendre justice et dissuader les potentiels candidats. Ainsi, les différents crimes commis par Nordal le Landais ayant ému la France entière ont rappelé l'importance du jury populaire qui exprime et reflète la récusation sociale du crime. Ce sentiment de rendre justice ou de faire justice a été déterminant pour ces jurés lors de ces différents procès. À l'époque révolutionnaire, comme aujourd'hui, demeure cette question pour un jury. Comment prendre la bonne décision et ne pas se tromper? En bref, comment bien juger? Le doute lancinant? La crainte d'être influencé? D'être trop dur ou trop compatissant? Se prononcer selon son intime conviction peut souvent être conditionné par de multiples facteurs. Si durant l'Ancien Régime, comme à l'époque contemporaine, il était plus facile de condamner le bandit que le gentil, d'acquitter le bourgeois plutôt que le scélérat, l'on votait selon les mœurs de son temps, la situation et la réputation de l'accusé, l'opinion communément répandue ou les bruits et rumeurs entourant le procès. Très souvent, la parole d'un bon père de famille primait celle d'une femme, d'un enfant ou de toute personne de condition indigne. S'il a fallu attendre 1980 avec Gisèle Halimi pour que le viol soit véritablement introduit dans le code pénal, la prise en compte de la parole des femmes et des enfants était encore à ses balbutiements à cette époque. C'est à partir des années 90 que les crimes sexuels ont trouvé un réel écho dans le débat public et une traduction pénale au sein des cours d'assises. Bien jugé, prendre une bonne décision résulterait alors de l'évolution de la société. Pour d'autres jurés, bien juger peut être le synonyme de se protéger. L'affaire Petit Père, jugée en 2018 par la cour d'assises de Bobigny, mettant en cause des organisations mafieuses, a conduit à un nombre élevé d'acquittements au sein des bancs des accusés. D'aucuns parlaient de jurés sous influence qui, timorés, condamnaient légèrement ou acquittaient largement par crainte de potentielles représailles. Mais le fait de juger en son âme et conscience peut être aussi entravé par les tribunaux médiatiques et l'opinion publique. À ce titre, l'affaire Patrick Dils et l'erreur judiciaire qui en a résulté a démontré les carences d'un système influencé par l'hypermédiatisation et l'émoi populaire. Le juré, qui était sensible à cette émotivité, n'a pu librement apprécier les incohérences du dossier et laisser place aux doutes qui profitent à l'accusé. De sorte qu'hormis les conseils pratiques, les jurés non tenus au devoir de neutralité et d'objectivité qui incombe aux magistrats ne connaissent pas de modus operandi ou de recette miracle de la juste sentence. Le bien jugé pour un juré, s'il a pour idéal l'impartialité, est foncièrement déterminé par l'intime conviction. Cette certitude profonde, loin d'être neutre, est influencée par la société, notre personnalité, notre histoire, nos valeurs, convictions, conceptions et opinions personnelles. Et parfois même par la défense de nos intérêts. Mais si certaines condamnations ou acquittements étonnent et détonnent, laissant apparaître les raisons sous-jacentes, les cours d'assises en France sont globalement pondérées, la moyenne des condamnations prononcées avoisinant les 7 années de réclusion criminelle. Nous avons vu que le jury populaire était confronté à 3 grands défis, celui de s'accommoder à l'espace judiciaire, du devoir de juger et du comment bien juger. Toutefois, un 4e défi semble poindre dans notre portrait. En effet, avec la création des cours criminelles départementales en 2019, qui réduisent leur champ de compétences aux crimes punis de 20 ans de réclusion criminelle, les juges citoyens risquent-ils de se raréfier au sein des cours d'assises ? Les cours criminelles départementales sont-elles des concurrents à cet acquis révolutionnaire ? Alors quel avenir pour le jury populaire ? C'est à cette question que répondra notre dernier épisode consacré au jury populaire confronté aux défis de son temps.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.